Kader Abd al-Rahim, bonjour.
Bonjour.
Peut-on considérer aujourd'hui, après la démission de Abdoulaye Bathily, que la situation est totalement bloquée ?
Elle l'était avant la nomination de Abdoulaye Bathily, puisque après la démission de son prédécesseur Yann Kubis, il a fallu plusieurs mois afin que l'ONU et les pays rivaux se mettent d'accord sur un nouvel émissaire. Donc, la situation de blocage préexistait et aujourd'hui, je dirais qu'elle n'est pas pire ni meilleure d'ailleurs. C'est ça qui est inquiétant parce que je crois qu'il faudra encore plusieurs mois pour nommer un successeur à Abdoulaye Bathily compte tenu des intérêts contradictoires d'abord des Libyens, mais également des pays qui s'ingèrent dans cette situation et dans ce chaos libyen.
Abdoulaye Bathily, on remarque, le seul envoyé spécial africain sur 9 déjà, n'a pas été aidé par les démocraties occidentales. Pourquoi, à votre avis ?
Encore une fois, c'est parce que je crois qu'il y a des intérêts contradictoires et que dans le fond, notamment pour les pays qui ont participé à la guerre en 2011, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis via l'OTAN, ce qui était une manière de contourner aussi le Conseil de sécurité, mais surtout l'Union africaine, leurs intérêts sont contradictoires d'abord aux trois pays que je viens de nommer, mais également ils considèrent que le statu quo, dans la mesure où le conflit ne déborde pas des frontières libyennes, leur convient parfaitement. Alors c'est à géométrie variable parce que parfois le conflit déborde et notamment sur la question migratoire qui est un enjeu extrêmement important pour la politique intérieure des États européens. Rien n'a été fait effectivement pour soutenir la démarche d'Abdoulaye Bathily qui a eu beaucoup de mal et qui, dans la conférence de presse qu'il a faite pour annoncer sa démission, a aussi exprimé sa grande déception à l'égard du multilatéralisme.
Que signifie alors ce nouvel échec pour l'ONU en Libye ?
Eh bien, c'est la preuve que, dans le fond, lorsque les grandes puissances ne trouvent pas de terrain de convergence, de compromis, les conflits s'enlisent et on préfère un conflit gelé, c'est le cas en Libye, à un conflit ouvert qui nécessiterait évidemment des mesures plus énergiques. On l'a vu là récemment entre Israël et l'Iran, on le voit à propos de l'Ukraine, mais il semblerait que le conflit en Libye, qui est aujourd'hui pas seulement politique, mais qui est aussi un sujet de défense et de sécurité, que ce conflit puisse être contenu dans les frontières libyennes. Et tant qu'il ne déborde pas, finalement, les Européens et les Américains considèrent que leurs intérêts sont épargnés et que dans le fond, ils peuvent se satisfaire d'une situation qu'ils ont eux-mêmes créée avec la guerre en Libye en 2011.
Quels sont les scénarios à venir pour ce pays ? Les États-Unis, via la numéro 2 de la Manul, vont-ils prendre les manettes de ce dossier et quelles implications cela suppose ?
D'abord, ça permet aux États-Unis de garder la main sur le dossier. Et deuxièmement, encore une fois, cela permettra aux Américains de dicter ou d'orienter globalement les propositions que pourrait faire la successeur. Ceci étant, il y a aussi d'autres enjeux, puisque à travers les États-Unis, ceux qui agissent en seconde main, ce sont notamment les pays du Golfe avec les Émirats arabes unis, avec l'Égypte qui ont des intérêts stratégiques importants puisque c'est un pays frontalier de la Libye et que les alliés des Américains seront sans doute confortés par cette nomination à venir. Évidemment, il faut qu'elle soit confirmée.
Kader Abd al-Rahim, merci.